Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Émission numéro 40. Toi, c'est moi. Tu traduis ça comme ça ? Chers amis, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Claire Pedotti. Claire Pedotti, qui est une traductrice professionnelle au Conseil de l'Europe. Vous avez vécu en Italie et vous êtes née en Lorraine. Vos parents sont de la génération de la migration dans la sidérurgie. Et vous n'avez pas seulement traduit des textes politiques, mais vous avez eu beaucoup de plaisir à faire des traductions dans le domaine de la musique. Alors, notamment pour le festival Musica à Strasbourg. Alors, nous sommes heureux dans cette nouvelle saison de Vous l'avez bien connu, de vous inviter, nous raconter avec certainement beaucoup de fantaisie votre vie.
Cher Claire.
Oui, Ambroise.
Je suis très heureuse que vous ayez accepté de venir à cette émission. Maintenant, moi, j'aimerais savoir... quel genre d'enfance vous avez eu, où vous êtes né, comment vous avez grandi, dans quel contexte ?
Oh, j'ai toujours été très heureuse. J'ai eu une vie, c'était en Lorraine, mais c'était comme en Italie. On était 11 enfants autour de la maman. Ma maman adorait faire de la sauce tomate qui mijote, comme dans les films d'Ettore Scola. Et j'ai un souvenir... très sympathique. J'ai même appris l'alsacien local en Lorraine un petit peu, et c'est peut-être ça qui m'a donné le goût des langues. Bien sûr, ça m'est arrivé, on m'appelait Pedotti, Spaghetti, Macaroni et tout, c'était bien sûr comme ça, mais au sein de la famille, c'était très très sympa. Bien sûr, papa revenait de la mine, et donc c'était... Enfin, il travaillait à la mine, mais il travaillait dans les bureaux, donc c'était quand même un petit peu... Mais j'ai un très bon souvenir de mon enfance, oui.
Très bien, belle enfance, et la suite hein. Votre vie s'inscrit autour de quoi ?
Comme on était nombreux à la famille, dans la famille, à un moment, on était trop nombreux, dans le petit HLM, quand même, qui faisait 65 mètres carrés. Et on m'a envoyé avec mon frère et deux autres sœurs en Italie, chez les grands-mères. Et j'ai poursuivi ma scolarité dans une petite ville de banlieue de Rome, unique objet de mon ressentiment, à qui mon cours de latin m'a volé mon amant. Et j'étais très contente d'aller à Rome, d'autant plus que les copains, alors les voisins, il y avait des Allemands, il y avait d'autres nationalités. Donc j'ai piqué un petit peu toutes les langues là-bas, mais je suis quand même rentré à Metz pour passer mon baccalauréat. Mais c'est une enfance qu'on peut imaginer, comme cela, dans les années 50, 60, où l'insouciance est très belle. On ne se souvenait plus trop de la guerre, ce qui est faux, parce qu'effectivement, quand j'étais en Italie, c'était quand même le village avait été détruit. Donc, je voyais bien comment mes grands-parents étaient obligés de se battre simplement pour manger, pour avoir des revenus. Une petite anecdote, si vous voulez, Ambroise. Quand on allait chercher le pain, on demandait le pain de la veille à la boulangerie parce qu'il était moins cher. Donc, vous voyez, ça, ce sont des choses qui vous marquent quand vous avez 12 ans, 13 ans. Et oui, la guerre était présente. Les petits Allemands avec qui j'allais à l'école et qui m'ont un peu appris l'allemand, c'était des enfants juifs réfugiés et qui étaient en Italie. Les parents m'ont fait lire Primo Levi très, très jeune, à 15 ans. Et ça a été aussi une révélation pour moi en Italie. Mais pour répondre simplement à la question, oui, 30, 40 ans après, je ne vais pas vous dire mon âge, j'ai un souvenir d'une enfance assez insouciante, parce qu'on ne voulait pas embêter les enfants avec tous les soucis des parents.
Mmh. Intéressant. Et vous avez continué à faire vos études en Italie ou bien vous avez étudié en France aussi?
Alors, après mon bac, bien sûr, Erasmus n'existait pas encore, quel dommage. Et donc, j'ai eu la chance parce que on avait un oncle en Amérique. Donc, je suis allé passer une année dans une université Champaign Urbana dans l'Illinois, au sud de Chicago. Donc là, j'ai pris mon anglais. Et alors, le plus étonnant, c'est qu'en fait, aux États-Unis, j'ai surtout appris l'espagnol. Il y avait tellement d'immigrés espagnols, ça me rappelait un peu mes parents. Donc, j'ai pris l'espagnol. Donc, du coup, je parlais le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, l'américain. Et donc, j'ai pensé assez rapidement à faire soit de l'interprétariat, soit de la traduction. Les gens confondent souvent la même chose. Hein. Dans mon métier, on me dit « Ah, tu es interprète ». Non, je suis traductrice. Hein. Et les interprètes ne traduisent pas. Souvent, les interprètes sont de mauvais traducteurs. Moi, je suis une très bonne traductrice. Mais un traducteur, il prend le temps de comprendre l'essence d'un livre. Alors, bien sûr, quand on traduit des amendements dans un texte administratif, c'est juste la rigueur qui compte. Hein. Il faut vérifier d'abord que l'auteur ne se soit pas trompé, ça arrive. Et puis, on traduit un peu comme des machines, mais ce n'est pas mécanique. Il faut que ce soit très bien. Le rêve de tout traducteur, je pense que tous mes amis traducteurs sont d'accord avec moi, c'est de traduire des romans, la littérature. Celui qui a traduit Proust pour la première fois en italien, il a dû prendre son pied. Enfin, ça doit être, même si c'est... Non, traduire des grands textes, c'est vrai que c'est une œuvre... ça peut être qu'un sacerdoce, parce que c'est jamais bien payé. Donc, on le fait pour le plaisir. Et j'ai traduit des romans. Bon, j'ai commencé par la série Harlequin. Alors, c'est pas très drôle, parce que la série Harlequin avait commencé en anglais. Et moi, je ne traduis que vers ma langue maternelle. Et ma langue maternelle, c'est le français. C'est le français. Même si je parle très bien les autres langues, quand je rêve, c'est en français. Quand j'écris mon petit journal intime, hein, à 12 ans, à 15 ans plus tard, « Cher journal, j'ai vu passer Marcello, comme il est beau !» et tout, c'était en français, même quand j'étais en Italie. Donc, je traduis que vers ma langue maternelle.
C'est intéressant. Justement, en parlant des langues, disons, nous vivons dans un environnement européen qui se resserre de plus en plus. Que pensez-vous que sans abandonner leur spécificité nationale, comment vous envisagez que les Européens puissent se comprendre mieux sans passer automatiquement par l'espèce de globiche qui est devenu l'anglais international?
Oui, le globiche qui est dénoncé par, notamment par des journalistes français.
Pas seulement.
Je vous recommande Les coulisses de l'Europe, là, de Jean Quatremer, de Libération. Mmh. Il pointe vraiment tout ce mélange. C'est effectivement un peu malheureux de voir que, par exemple, maintenant, à Strasbourg, un Polonais qui rencontre un Roumain, autrefois il se serait à la rigueur parlé en russe, maintenant il se parle en anglais, mais c'est une catastrophe. Même les Alsaciens comprennent cet anglais tellement pauvre, avec si peu de mots. Et je ne sais pas, je pense que chacun doit parler sa langue et l'autre fait un effort de compréhension. Bien sûr, il faut échanger sur des choses pratiques et tout, mais quand c'est quelque chose de plus personnel ou quand ce sont des choses plus philosophiques, culturelles, je crois parler sa propre langue permet de faire des nuances et l'auditeur va comprendre ces nuances. Alors, bien sûr, j'ai voulu apprendre l'espéranto parce qu'on s'est dit, c'est un peu le... voilà. J'ai exploré un petit peu cette langue. Ça fait un peu boîte de Lego, hein, ou mécano. C'est pas passionnant, c'est pas une langue. Alors, bien sûr, ça a été. C'est en Pologne, hein, qu'elle a démarré cette langue. Ça part de, disons, de bonnes intentions, mais le résultat, c'est qu'on ne parle pas avec son âme, on ne parle pas avec ses tripes, on ne parle pas avec un vécu, un passé. C'est très mécanique. Donc, non, je pense que chacun doit faire l'effort d'apprendre des langues aussi. Maintenant, pour les jeunes, c'est formidable. Ils vont dans tous les pays, il n'y a plus besoin de visa. Et ils ont Erasmus pour faire une année, pour tomber amoureux d'une petite Espagnole, comme dans le film et tout. Non, c'est génial, ça.
Mais oui, mais à votre époque, Erasmus n'existait pas. Donc, comment vous êtes débrouillé pour aller à droite, à gauche?
Bon, je faisais de l'autostop. Alors j'avais deux techniques. Soit je laissais tomber mes longs cheveux, non pas blonds mais noirs, et je faisais du stop. Alors bien sûr souvent avec une copine et plus tard avec un copain. Donc c'est un peu plus difficile quand on est en couple, mais quand on est toute seule en train de faire du stop là dans les années 70, ça marchait formidable. Et on faisait du stop non pas pour aller quelque part, on faisait du stop pour rencontrer quelqu'un de sympa qui allait vous amener quelque part. Et si la personne vous disait, je fais 400 km, je vais là-bas, on allait là-bas. Hein, voilà. Donc c'était soit ça, soit il y avait les billets biges qu'on achetait chez Vastels, la station. Ils avaient leur bureau en face de la gare, et c'était des tickets. On pouvait tricher avec la complicité du contrôleur, et on pouvait aller à Varsovie pour 30 francs. Quoi. C'était. Varsovie, c'était peut-être un peu plus tard. Ça a été. Mais on allait en Espagne, par exemple, on allait en Italie, on allait au sud de la France. Quand on ne savait pas où dormir, dans une auberge de jeunesse, on prenait le train, parce que le train était tellement peu cher. Et donc là, dans un train, c'est formidable. Soit vous vous plongez dans votre bouquin et vous avez votre voisin en face de vous pendant 200 km, soit vous posez une question, il est joli, le petit chien et tout, et la conversation démarre. Et même si c'est une autre langue, on arrive à se... Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, c'est quelqu'un, c'était une dame qui était russe. Et elle me dit, et je comprends que c'est du russe. Et je ne parlais pas un mot de russe. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, Mayakovsky, Mayakovsky, Eisenstein. Je montre le landau qui roule sur les marches du port de. C'est en Crimée. J'ai un petit trou.
Sébastopol,
oui, voilà, merci Ambroise. Et donc, voilà, donc on arrive toujours à communiquer avec les gens. C'est ça qui est bien dans le fait d'être, de posséder beaucoup de langues. La traduction, c'est différent, c'est beaucoup plus rigoureux, c'est autre chose. C'est un travail où on est seul dans sa chambre et on voit un texte et on écrit.
Bon, Claire, vous me racontez l'histoire finalement assez typique d'une jeunesse passée dans les Trente Glorieuses, hein, ou vers la fin des Trente Glorieuses, avec cette ouverture pour les jeunes et cette envie de sortir du carcan national, au fond. C'est ça. Donc vous vous considérez comme quelqu'un de typique, ordinaire de votre génération ?
Alors je suis typique de ma génération en étant effectivement complètement atypique. Parce que je vois tous mes amis de mon âge, ils ont tous fait des trucs complètement tordus. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à Strasbourg et de commencer ma carrière à Strasbourg. Je ne suis rentré au Conseil de l'Europe qu'à l'âge de 40 ans. Donc avant, j'étais, on ne disait pas comme ça, mais freelance. C'est-à-dire que je cherchais des contrats. Puis on n'avait pas la peur du chômage. Il y avait pas, c'était bien, on trouvait un boulot. Le boulot ne plaisait pas, on ne le faisait pas, parce que le type n'avait pas l'air sympa, on ne traduisait pas. Mais on rencontrait des gens, et puis c'est le bouche à oreille qui fonctionnait. Donc j'ai travaillé pour des journaux, j'ai travaillé pour des festivals, comme le Festival Musica, qui était en train de démarrer. C'était absolument génial. Il y avait l'équipe était formidable, il y avait Laurent Bayle, il y avait une ambiance géniale. Spielmann aussi, enfin, tous les Strasbourgeois connaissent cette époque. Et donc on avait envie de faire plein de choses. Et ils avaient invité Berriot. Et il y avait Kagel, Stockhausen et Berriot. Et donc, c'était des gens qui... Donc, il fallait parler un petit peu avec eux, mais ils amenaient leurs textes qui étaient très complexes et ils parlaient souvent assez bien le français, mais pas assez. Et donc, je traduisais ces textes et ensuite, je restais deux jours avec un grand compositeur habité par sa musique à relire mon texte français où il me donnait des précisions, il me disait « Oui, j'ai voulu dire ça, ah ouais, mais il faudrait que je le change en italien, là, c'est pas bon, ce que vous avez trouvé dans mon texte est meilleur. » Enfin, j'ai des souvenirs formidables. Et ça, c'est vrai que c'est bien, et puis on était payé pas trop mal, puis on s'en foutait un petit peu de l'argent à l'époque, les loyers n'étaient pas trop chers. Je sais pas, c'est une période effectivement assez atypique. Bon, de temps en temps, on faisait un autre boulot, j'ai donné des cours dans des lycées, à l'école, fallait bien quand même... voilà, donc le jour de ma retraite, j'espère que je retrouverai tous mes points, là, pour lorsque faudra partir à 76 ans à la retraite, il faudra effectivement...
comme vous y allez, Claire, comme vous y allez.
Non, mais Ambroise, un traducteur n'est jamais à la retraite. Hein. Et une traductrice encore moins, parce qu'on a des trous dans sa carrière, hein. c'est pas la raquette.
C'est clair.
Mais ça, voilà, on a des... Je ne vous raconte pas ma vie familiale assez, rebondissante. Et donc, effectivement, on arrive à faire plein d'autres choses.
Bon, donc, votre arrivée dans les institutions européennes a dû être, disons, un moment plus sobre dans votre vie ou comment vous l'avez vécu ?
Oui, sobre, je dirais que c'est un moment d'apaisement. Dans une carrière, on a fait beaucoup de choses, tout. On a envie de moins courir, d'arrêter d'avoir à 9h du soir un coup de fil en disant « tu peux avoir mon texte pour minuit, s'il te plaît ?» Et vous dites à votre copain « bon, excuse-moi, il faut que je fasse une traduction ». Surtout quand il n'y avait pas encore Internet et tout. Donc après, il fallait prendre son vélo et aller amener son texte parce que c'était urgent à l'imprimerie et tout. Bon, c'est une petite anecdote, alors que... Au Conseil de l'Europe, à l'institution, on sait 3 mois à l'avance quels sont les textes qu'on devra traduire. Bon, parfois, c'est aussi à la dernière minute. Mais c'est une autre ambiance, plus feutrée, avec des collègues qui ont des têtes comme des melons, avec des hommes politiques qui sont souvent très courtois et très reconnaissants. Et qui, c'est une anecdote comme pour avec les auteurs artistiques, quand ils relisent votre traduction, ils sont épatés. Quand vous arrivez à traduire un texte, ce qu'on appelle les professions, enfin c'est pas les professions de foi, en dernière page des rapports, c'est la traduction de encore un mot qui m'échappe, mais la justification de tous les amendements, il faut que ce soit assez court, c'est 30 lignes, et c'est d'habitude ce qu'on lit, on dit pourquoi on a fait tout ce texte et tout. L'auteur, il a fait avec son assistant 47 lignes, c'est un peu long, donc il est obligé de couper dedans et tout. Et vous arrivez à le traduire en 22 lignes, et il y a tout dedans. Et il se dit, aïe, ça c'est un bon travail. Ce qui s'est passé, c'est que ces 22 lignes, ça vous a pris 2 jours à travailler. Mais d'arriver à faire une synthèse en gardant tout d'un texte, toute l'essence, ça c'est assez jubilatoire. Mais c'est un autre travail que de traduire l'enfance et l'inspiration. Je marchais pieds nus dans la forêt pour écouter les oiseaux et je me prenais pour Beethoven.
Maintenant que vous avez passé une grande partie de votre vie professionnelle, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse et l'âge mûr, hein, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui voudraient avoir une vie plus aventureuse ou plus insouciante, comme vous disiez, que ceux qui se présentent à eux actuellement?
Ah, je vais faire une réponse qui est fausse. Parfois, on invente hein, à la radio. Mais je dirais à des jeunes...
Ah bon ?
Écoute, Ambroise, n'utilise jamais Google Traduction. Mais c'est pas possible. C'est trop facile, c'est trop bien. On a un texte, là, moi, ça m'est déjà arrivé, un texte en néerlandais. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Je téléphonais avec une copine... qui me le traduisait vaguement en anglais, et puis après, je le retraduisais en français. Ça perdait un petit peu, mais je comprenais l'essence et tout. Maintenant, je vais sur Google Traduction, je mets le texte dedans, j'ai une traduction qui est un petit peu foireuse, et à part deux ou trois détails, je la réécris, bien sûr, je refais, mais on a une traduction automatique qui fait que notre métier il est en train de disparaître. Et c'est vraiment dommage, hein, mais c'est une facilité...
Excusez-moi Claire, là je suis un peu perdue. Vous êtes une adepte de l'intelligence artificielle dans le langage ?
Non, je vous rassure Ambroise. Bon, il y a des expériences qui sont faites comme ça où on va inventer des vocabulaires. Il y a des ministres qui veulent réduire la langue à son efficacité en diminuant le nombre de mots... en écrivant éléphant avec un F, et je pense que ce sont des choses qui passent, je sais pas, ou alors on arrivera à les intégrer. C'est vrai que je vois mes petits-enfants qui ont 20 ans, ils n'arriveraient pas à se passer d'Internet, ou quand je leur montre un 33 tours ou un 45 tours, ils me regardent avec mais vraiment, ils sont étonnés et tout. Donc le progrès, on est obligé de faire avec, et ça avance. Alors que moi, ma grand-mère, elle écoutait la radio, et même à Metz, on arrivait à avoir la radio italienne, et on entendait, voilà, et c'était la seule chose qu'on... Voilà, maintenant, même, je veux dire, mais je t'achèterai pour Noël des CD, ben ça va pas, non, moi j'ai tout dans la petite puce qu'on a dans le cerveau, il y en a toute la musique et tout, donc il y a un progrès, donc les traductions automatiques, on peut pas les ignorer, quoi, ça c'est... Je pense que les ordinateurs font des progrès énormes Alors, c'est très standardisé. Donc, traduire Rimbaud, hein, le poème, les voyelles, ça a été traduit dans toutes les langues. C'est un exercice de style complètement dingue. Finnegan's Wake de Joyce, les spécialistes de Joyce disent que la traduction française est meilleure, et en tout cas plus compréhensible que l'original en anglais. Donc, le traducteur a quand même un rôle très très important. Mais c'est un rôle d'interprétation aussi, donc c'est un petit peu différent.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, quand je revois votre parcours, il me semble qu'il y ait, dans ce que vous racontez sur la langue, le passage entre deux langues, il y a quelque chose qui rapproche les traducteurs des interprètes musicaux.
Oui, alors, en tant que traductrice, quand j'écris, je fais assez attention aux assonances. Et il y a des textes pour lesquels... Alors, bon, le texte le plus sublime, c'est bien sûr Flaubert. On sait que Flaubert, pour mettre une phrase par écrit sur le papier, il la lisait d'abord à haute voix. Il appelait son bureau le gueuloir. Et donc, il fallait que ça sonne bien. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, le début de Salammbô. Et c'est comme ces trois vers de Gainsbourg. Hein, enfin, c'est comme une chanson. Voilà. Donc, arriver à avoir cette beauté de la phrase dans une autre langue, ça, l'intelligence artificielle n'y arrivera jamais. Ça, il faut que ce soit... J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Quelle phrase magnifique, on s'en fout de ce que ça veut dire. Mais c'est formidable, ça. Donc, on met ça dans Google, on le fait traduire, ça serait rigolo de faire l'exercice, et on arrive à quelque chose d'indigeste. Exposer des motifs. Voilà, je cherchais le mot avant, par rapport au rapport que l'on faisait au Conseil de l'Europe. L'exposer des motifs, voilà.
C'est ça, l'exposer des motifs, hein, oui.
C'est quelque chose de très important, parce que c'est ça qui peut convaincre un votant de voter pour ou contre, voilà, quand son groupe politique ne lui dit pas ce qu'il doit faire, ce qui est souvent très bien. Voilà, oui, donc on était reparti sur la musicalité des phrases, et ça c'est quelque chose, je pense que mon propre parcours, musique et traduction, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Oui, oui. Alors, Ambroise, qu'est-ce que vous voulez encore me demander?
Je vais vous demander, maintenant, on a parlé du passé, du présent, vous voyez votre avenir comment?
Bah, écoutez, vous avez oublié de me poser la question pour laquelle vous m'avez invité, et mon livre que je viens de sortir.
Ah,
ben oui.
J'attendais la fin, cher Claire. Oui, alors, parlons de ce livre.
Hein. Alors, quand on écrit un livre, disons, en fin de carrière, on commence par dire du mal de tout le monde, et ça, c'est des pages qu'on ne va pas publier, et après, on dit du bien de tous les autres, on est un peu flagorneur, on fait semblant d'être modeste, et tout ça, et tout. Pas du tout. Moi, j'ai écrit un livre qui raconte ma vie, hein. Alors, j'ai rencontré à Strasbourg Gérard Noiriel, qui est un historien spécialiste, il y en a d'autres, hein, de l'immigration italienne dans l'est de la France. Donc, ça m'a donné envie de raconter l'histoire de ma grand-mère et tout. Et finalement, j'ai écrit mon livre où j'invente tout. C'est faux. Alors, tout est juste quand on invente, parce qu'on a des clichés en tête, on se renseigne un petit peu et tout. Mais je me suis dit, je vais, dans mon livre, inverser les rôles. Et je me suis au lieu de raconter ma vie, Claire Pedotti, je me suis dit, je prends un nom au hasard de journaliste, Ambroise Perrin par exemple, hein, pour vous flatter, et il va raconter ma vie sans rien savoir. Et on va voir qu'est-ce qu'il invente. Et je me suis dit que ça pourrait être, très rigolo et que ça pourrait faire une bonne émission de radio. L'émission numéro 40, Toi, c'est moi, tu traduis ça comme ça? Aujourd'hui, avec Claire Pedotti, traductrice professionnelle. On se retrouve tous les mardis à 11h30 et une diffusion le dimanche à midi. Et aujourd'hui, à la technique, Lucas Bringout. Et mon nom est Ambrosio Perinos, Perini. Ambrogio.